paix. Il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Christelle Yesso.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cette édition. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, appelle le gouvernement ivoirien au dialogue politique pour résoudre la question de l'inscription de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire a célébré hier la Journée internationale des forêts avec un appel à l'innovation pour préserver les écosystèmes. Plus de détails dans cette édition. Et dans l'actualité internationale présidentielle au Sénégal, le candidat Habib Sy se retire au profit de Bassirou Diomaye Faye. La revue des titres sera assurée ce matin par Jean-Mélène Bitti et on refermera ce journal avec l'invité de la rédaction, Élie Kaboré, journaliste, économiste et expert en financement de la dette, nous en dira plus sur le rôle des journalistes dans la promotion de la transparence dans le financement des dettes en Afrique. Le PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, par la voix de son secrétaire général, Tchéidé Jean Gervais, invite le gouvernement ivoirien à un dialogue politique. Objectif, réglé par la discussion, la question de la réinscription de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Écoutons à cet effet Tchéidé Jean Gervais, secrétaire général du PPACI.
Il s'agit d'une question politique qu'il nous faut régler par la discussion politique. Nous sommes dans cette position, dans cette posture, parce que nous pensons que la Côte d'Ivoire a assez souffert des divisions, des querelles liées à la conquête du pouvoir, notamment aux questions électorales, et qu'après ce que nous avons traversé au cours des deux dernières décennies, nous devons avoir la sagesse, honnêtement, de nous asseoir pour discuter. Et donc, nous sommes dans la posture de demander l'ouverture d'une discussion politique avec le gouvernement. Au total, il nous faut discuter. C'est ce que nous on met en avant dans un premier temps. Donc la question, on la règle avec le gouvernement. On préfère la régler avec le gouvernement plutôt que contre le gouvernement.
Vous avez donné un délai pour que cette discussion s'ouvre?
Pour l'instant, nous ne mettons pas de délai parce que quand on veut faire les choses de façon pacifique, on ne met pas de délai. On demande l'ouverture du dialogue politique pour régler la question. C'est ce que nous allons faire avec le gouvernement. Il appartient au gouvernement maintenant de nous donner le délai dans lequel il compte ouvrir la discussion. Mais il est évident que pour nous, le plus tôt sera le mieux.
À l'instant, Jean Gervais Tchéidé, secrétaire général du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Nous nous intéressons à présent à la situation des déguerpis dans le district d'Abidjan. Parmi les mesures d'accompagnement annoncées lors du dernier Conseil des ministres, récemment délogés, les habitants des quartiers précaires figurent un appui destiné aux jeunes impactés par ces déguerpissements. Pour cet usage, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique a rencontré les représentants des déguerpis et des mairies de Yopougon, Atekoubé, Adjamé et le district d'Abidjan, mais également les ministères sectoriels concernés. Mata Touré pour plus de détails.
Il s'agissait de jeter les bases de la réflexion sur les mesures pouvant être apportées pour accompagner ces jeunes impactés par les déguerpissements vers une réinsertion économique. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique.
Nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail qui, dans les 10 prochains jours, donc, devra nous proposer donc, des mesures concrètes d'accompagnement donc, de ces personnes. Bien évidemment, ils devront être identifiés, faire en sorte que ne soient pris en compte que les vrais bénéficiaires et que ce ne soit pas un appel d'air et donc qui appelle donc tout le monde.
De leur côté, les mairies avaient déjà commencé ce travail avec une principale difficulté. Ligoué Émile et de la mairie d'Atekoubé.
La difficulté, c'est que si nous ne sommes pas vigilants, nous allons léser ceux qui sont concernés directement. Certains jeunes voulaient en profiter pour se faire enrôler. Et nous avons dit non. Nous avons dit non. Nous avons mis un dispositif pour vraiment filtrer, C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec les collectifs des différents quartiers. Nous-mêmes, les élus, sommes là avec les jeunes, les organisations des jeunesse de ces différents quartiers, même les organisations des femmes. parce que c'est eux qui se connaissent dans le quartier.
Le ministère de la Jeunesse qui rappelle qu'il existe un dispositif national de réinsertion qui concerne non seulement ces communes d'Aigrapie, mais également l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire.
Autre sujet à présent, 96 ex-migrants ivoiriens qui ont été volontairement rapatriés récemment en Côte d'Ivoire ont reçu mercredi à Abidjan des chèques d'un montant global de 98 770 000 francs CFA au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Cette cérémonie de remise de chèques aux ex-migrants est la deuxième du genre à après la première phase organisée en octobre dernier au bénéfice de 150 ex-migrants. Le ministre Mamadou Touré a profité de cette cérémonie pour encourager ces jeunes, pour la plupart, à ne pas s'engager dans la voie de l'immigration irrégulière. Nous l'écoutons.
C'est vrai que cette cérémonie voit des remises de chèques, mais juste dit qu'on n'a pas besoin forcément de partir pour recevoir donc des chèques, puisque le dispositif mis en place par le gouvernement vise à accompagner tous ces jeunes qui viennent en tout qui ont besoin d'un accompagnement dans leur parcours d'insertion professionnelle, est un dispositif qui existe et donc qui est profitable à tous les jeunes. Donc n'attendez pas de partir, de vivre des drames avant de venir bénéficier de ce dispositif. Vous pouvez tout de suite aller vers les guichets emploi, les agences régionales de santé jeunes et bénéficier donc de ce dispositif. Vous avez vécu des choses, vous avez des conditions difficiles. Il est important pour vous d'être les ambassadeurs du gouvernement, vous expliquer bien à vos amis que les durables ne sont pas forcément ailleurs. Et nous sommes prêts à vous accompagner donc, dans cette campagne donc, de sensibilisation. Ensuite, pour terminer, vous demandez de bien utiliser les ressources qui sont mises à votre disposition. Ce n'est qu'une première étape. Vous recevez des ressources pour soit initier des activités ou renforcer des activités. Mais après la bonne utilisation de ces ressources, vous avez toujours la possibilité de redemander encore donc des ressources complémentaires pour faire vos activités. Il faut juste justifier la bonne utilisation des premières ressources que vous avez mises à votre disposition.
À l'instant, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré. Les secteurs qui ont été priorisés par ces ex-migrants porteurs de projets sont entre autres le commerce, l'agriculture, l'artisanat, le transport et l'élevage. En éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a appelé le secteur privé ivoirien à aider l'État à financer au moins 1% de son PIB les projets de recherche pour le développement. C'était ce jeudi à Abidjan lors de la cérémonie de la troisième édition de la présentation des résultats de recherche de 10 chercheurs ivoiriens cofinancés par la Côte d'Ivoire via le FONSTI, le Fonds pour la Science, la Technologie et l'innovation et la Suisse. Francis Cassis pour le compte-rendu.
Les 10 chercheurs ivoiriens sélectionnés pour cette troisième édition sont passés successivement à un pupitre pour vous présenter les travaux de leur recherche, dont Dr Cissé Moussa, maître de conférence à l'université d'Ngouya-Bourgoua d'Abidjan.
J'ai présenté la conception d'un modèle de pisciculture en sol pour les régions du nord, parce qu'au nord, le problème, c'est l'eau. Et ce modèle-là fait qu'on peut faire l'aquaculture partout. Elle était financée par le FONSTI, Fonds pour la Science, la Technologie et l'Innovation, avec la Suisse. Donc la suite, c'est que les mairies, les conseils régionaux, les privés ou un bailleur de fonds, n'importe qui est intéressé par ce modèle-là, peut être implanté chez lui, le tout étant de produire beaucoup de poissons pour qu'il n'y ait plus de problème de sécurité alimentaire.
Président de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a soutenu ceci en faveur de la recherche ivoirienne. Adama Diawara.
On a pris l'exemple des pays d'Asie. C'est simple, hein? Ils ont investi énormément dans la recherche. Ces pays qui consacrent entre 3 et 4% de leur PIB à la recherche et développement, il faut savoir que les 3/4 du financement proviennent du secteur privé. Ce n'est pas l'État, mais il faut savoir que l'État fait ce qu'il peut. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que le secteur privé mette un peu plus la main à la poche. Parce que le 1% qu'on vise, évidemment, il y a la part étatique, il y a la part des partenaires au développement, mais il y a surtout la part qui doit émaner du secteur privé.
Présente à l'événement, l'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire, Anne Lougon-Moulin, a exhorté le secteur privé ivoirien à s'approprier les résultats des recherches.
Parlons à présent environnement. À l'instar des pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a célébré hier, jeudi, à Abidjan, la Journée internationale des forêts autour du thème « Les forêts et l'innovation, de nouvelles solutions pour un monde meilleur ». Cette journée a eu pour rôle de sensibiliser l'opinion en faveur de la préservation, la réhabilitation et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Didier Blé nous en fait le point.
Cette célébration 2024 de la Journée internationale des forêts survient dans un contexte qui nous interpelle avec cette incroyable vague de chaleur qui touche une grande partie du globe. Colonel Alain Guessant, directeur de la police forestière.
Nous avons perdu une bonne partie de notre couverture forestière, mais le ministère des Eaux et Forêts a engagé d'énormes efforts et nous continuerons à déployer nos équipes sur le terrain.
Les forêts, symboles de vie et de régénération, sont au cœur du patrimoine naturel ivoirien. Elles jouent également un rôle crucial dans la régulation du climat, mais des inquiétudes demeurent. Laurent Tchagba, ministre ivoirien des Eaux et Forêts.
Face aux défis croissants du changement climatique, de la déforestation et de la perte de biodiversité, il est impératif que nous regardions vers l'avenir. Moteur de progrès, l'innovation se présente comme un allié sûr.
L'innovation devient un allié indispensable sous multiples formes. Création de drones déversant des graines de reboisement, cartographie des terres, mais aussi des paiements pour services et écosystémique. Marc Debré, fondateur de l'ONG Green Invest Africa.
Il faut donc pouvoir évaluer que l'arbre qui a été planté s'est bien développé. La Green App permet de confirmer le développement de cet arbre, mais en plus de réaliser le paiement pour le compte du producteur ou de la communauté ou de la coopérative.
Avec 16 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire dans les années 1900, il ne reste plus que 3 millions d'hectares en 2024, d'où l'urgence de développer des approches innovantes pour atteindre le taux de couverture forestière de 20% que c'est fixé la Côte d'Ivoire.
Et nous embarquons à présent pour la ville de Daloa. Les autorités politiques et administratives de la ville ont procédé à l'inauguration d'une nouvelle institution financière, l'occasion de mettre en avant le potentiel économique de la ville. Pour le sous-préfet central de Daloa, il s'agit d'une nouvelle opportunité pour les opérateurs économiques de la région d'accéder au crédit et développer leurs activités. Compte rendu, Jean-Noël Kwame.
Au cours de cette cérémonie, l'agent maire de Daloa, Nza Sida, a mis en avant le potentiel économique de la région.
De voir les institutions financières s'augmenter nous montre que Daloa a un potentiel qui permettra à l'économie d'être boostée. Nous avons bénéficié de 20 km de goudron. Ça va permettre l'accès facile de ces institutions financières par les usagers. Daloa est beaucoup sollicité. Nous avons plein de demandes sur notre table. Nous les étudions et nous voyons qu'est-ce qui peut arranger la population.
Quant au sous-préfet central de Daloa, Masouba Meï, il a encouragé les commerçants et autres opérateurs économiques à explorer cette nouvelle opportunité de financement de leurs activités.
Ça permet de donner une large possibilité aux opérateurs économiques de pouvoir faire des affaires dans les banques de leur choix.
Le promoteur Christian Fauguin, quant à lui, entend faciliter l'accès au crédit aux petites et moyennes entreprises de Daloa.
C'est une ville en pleine expansion. Pour les transporteurs, nous avons des produits de leasing, nous avons des produits digitaux qui permettent aux gens de plus se déplacer. Pour les particuliers qui n'ont pas de contrat à durée indéterminée, nous pouvons financer des individuels qui ont des contrats à durée déterminée. Sur une période, les commerçants qui n'ont pas suffisamment de garanties, nous pouvons financer avec un système qui leur permet de constituer progressivement leurs garanties. Notre leitmotiv, c'est de permettre d'accéder au crédit. C'est des PME qui constituent la force d'une économie. Nous sommes spécialisés dans le financement des petites et moyennes entreprises.
Commerçants, transporteurs et autres opérateurs économiques ont été sensibilisés sur l'accès au crédit et l'inclusion financière pour le développement de leurs différentes activités. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières, au Sénégal, après le désistement de Cher Tidiane Diaye au profit de Bassirou Diomaye Faye mercredi, le candidat du PASTEF, parti d'opposition dissous, c'est au tour du candidat Habib Sy et ancien ministre de faire de même. Le nombre de candidats passe donc de 18 à 17. Celui qui a été plusieurs fois ministre et directeur de cabinet d'Abdoulaye Wade justifie cette décision par un souci de clarté pour les électeurs et pour éviter une dispersion des voix de l'opposition au premier tour de la présidentielle de dimanche. Le Niger a rouvert ses portes au Nigeria dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mars 2024. La frontière terrestre entre les deux pays était fermée suite au coup d'État du 26 juillet dernier et les sanctions de la CEDEAO qui avaient suivi. Le mois dernier, l'organisation régionale avait décidé de lever les sanctions contre le pays, ce que son voisin a mis en application il y a une dizaine de jours. Mais jusqu'à présent, le Niger se faisait prier à rouvrir sa frontière. Et sans transition aucune, nous abordons un autre pan de ce journal. Nous retrouvons maintenant Jean-Mélène Bitti pour la revue des titres des journaux de ce matin. Bonjour Jean-Mélène.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Ouvrons cette revue des titres avec le tête-à-tête qu'aura le président Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron qui aura lieu ce jour à l'Élysée. À ce propos, l'Inter affiche à sa une, 4 mois après le dernier tête-à-tête, nouvelle rencontre à Ouattara-Macron aujourd'hui à l'Élysée. Reçu pour la énième fois à l'Élysée ce jour, 4e mandat, un ballon d'essai de Ouattara à Macron ce jour, s'interroge le nouveau réveil. Sur le même sujet, Soir Info de son côté donne une idée des sujets qui seront au cœur de la rencontre Ouattara-Macron. La présidentielle de 2025 attise toujours les passions dans les différents états-majors politiques. À ce sujet, le mandat affiche présidentiel 2025. Rien ne s'oppose à la candidature de Ouattara. Il est suivi par Le Matin qui fait savoir de son côté à 18 mois de la présidentielle 2025, Ouattara et le RHDP prêts à écraser tout sur son passage. À ces journaux, la Nouvelle Alliance apporte la réplique en titrant « Présidentielle 2025, Gbagbo Thiam, un tandem qui trouble le sommeil du RHDP ». Le bilan intrépide lui indique à sa une « Présidentielle 2025, le RHDP en panne de stratégie ». Sécurité nationale, plus de 2600 nouveaux policiers sur le terrain hier. Plusieurs journaux sont revenus sur cette information. Premièrement, l'expression affiche à sa une « Police nationale, Vagondo Diomandé promet l'enfer aux flics corrompus ». Il est suivi par le rassemblement qui écrit à sa une « Vagondo lâche 2672 policiers ». Pour faire complet sur le sujet, Fraternité Matin Luber à sa une « École de police d'Abidjan, 2672 élèves policiers prêts à servir ». Le ministre Bruno Conné était face aux députés hier. Cette séance figure au menu de notre revue des titres de ce jur. Et ce sont le rassemblement et le sursaut qui ouvre le bal sur ce sujet. À leur une, on peut lire « Urbanisme et foncier urbain ». Bruno Conné fait modifier des articles de loi. La mobilisation de recettes dans le milieu des transports. Concernant ce sujet, les soins ivoiriens affichent « Transport routier, mobilisation de recettes fiscales, la DGI et Equipus Afrique ensemble ». Il est suivi par l'héritage qui lui met en manchette. La DGI et Equipus Afrique signe une convention. On termine notre revue des titres par les obsèques de Mgr Paul Simeon Awana. À ce propos, Fraternité Matin écrit « Église catholique, Mgr Awana inhumé aujourd'hui à Boaké ». Voici l'essentiel des titres de vos journaux de ce jour à vos kiosques à journaux. Merci et bonne lecture.
Merci Jean-Mélène pour cette revue de la une de nos journaux qu'on retrouvera à nouveau au cours de l'édition de 8h. Et nous restons donc avec Jean-Mélène Bitti pour l'invité de la rédaction. Il reçoit Élie Caboret, expert en financement de la dette, sur le rôle des journalistes dans la promotion de la transparence dans le financement des dettes en Afrique. Il a été interrogé en marge de la 4e édition de l'initiative médiatique du Forum et Réseau africain sur la dette et le développement, en abrégé AFRODAD, qui s'est tenue à Abidjan du 19 au 21 mars 2024. Suivons ensemble leur entretien.
Élie Caboret, bonjour. Vous êtes ?
Je suis Élie Caboret, journaliste burkinabé, directeur de publication de Mines Actu Burkina.
Alors pourquoi les journalistes africains doivent investiguer sur la question de la dette contractée par les différents pays africains ?
L'argument qui est toujours avancé pour contracter les dettes, c'est pour financer le développement. Mais il se trouve que malgré le niveau d'endettement de l'Afrique, qui est très élevé, la pauvreté aussi est très élevé dans tous les pays. Et on a remarqué que les pays les plus riches en ressources naturelles, en ressources agricoles, les pays qui vivent la pêche, les pays qui ont des opportunités d'élevage, tous ces pays ne maximisent pas sur ces ressources-là pour financer leur propre développement, mais préfèrent s'endetter. Et quand on prend par exemple dans le domaine commercial, des pays excellent dans l'octroi d'avantages fiscaux à des entreprises qui n'en ont pas besoin. Et il y a des détournements de financement et on arrive souvent à avoir des infrastructures sur papier, mais qui ne sont pas réalisées sur le terrain. On doit encore s'endetter. Donc l'Afrique se lance dans un cycle infernal d'endettement et de remboursement de la dette qui ne favorise pas son développement. Le journaliste, en tant qu'acteur clé dans la dénonciation et dont le travail impacte sur la prise de décision et qui souvent apporte des réformes institutionnelles et des réformes structurelles, se doit aussi de s'intéresser sur la question, investiguer pour non seulement savoir quel est le niveau de la dette, auprès de qui on contracte, est-ce que la dette elle est utile, et surtout mettre un accent sur l'utilisation de la dette. Est-ce que cette dette-là apporte quelque chose de plus à la vie des populations ou bien elle contribue plus à asservir ces populations-là? Donc les journalistes ont un très grand rôle à jouer sur cette question.
Alors on sait que les entreprises sont puissantes face à ces multinationales. Quelles sont les rudiments que les journalistes doivent avoir pour pouvoir mieux mener ces investigations-là, pour mieux informer les populations et aussi les décideurs?
Je confirme effectivement que les multinationales, avec des montages financiers très complexes, arrivent à détourner notre attention et se faire des gros bénéfices. Elles utilisent plusieurs techniques, la fraude, l'évasion fiscale, les questions de surfacturation, de sous-facturation à l'importation et à l'exportation, etc. Mais au niveau des journalistes, le premier défi, c'est la question de l'enforcement des capacités. Un journaliste n'est pas bien formé sur ces techniques, ne peut ne pas voir comme un mal qui passe. Le second aspect, c'est de relever la question de l'accès à l'information. Ces entreprises-là, quoi qu'on dise, ne communiquent pas assez. Et nos gouvernants aussi n'ont pas toujours le réflexe de communiquer. Pas de manière volontaire, mais souvent c'est de manière involontaire. Donc il est difficile souvent aux journalistes qui recherchent les informations sur les activités commerciales des entreprises, c'est difficile d'en trouver. Donc l'information est souvent cachée quelque part où on refuse complètement de donner l'information. Donc les journalistes doivent relever ce défaut d'accès à l'information et aussi pour certains pays africains, relever aussi la question de la liberté d'expression. Parce que sur la base des témoignages des uns et des autres, les pays aujourd'hui où le fait du journalisme est devenu quand même un métier risqué. Après avoir relevé toutes ces techniques, c'est aussi respecter les règles déontologiques et d'éthique que le métier s'est imposé pour pouvoir collecter les informations, les traiter et suivant peut-être des outils comme l'investigation, le data journalisme, le fact-checking, pour arriver vraiment à révéler à la face du monde et aux citoyens ce qui ne va pas et pourquoi le pays doit mieux lutter contre ces petites pertes d'argent, ce manque à gagner là, au lieu de passer le temps à s'endetter.
Vous avez parlé aussi du service de la dette qui a un taux de pourcentage dans la déclaration qui sont certainement fausses parce que les gens voudront faire du profit sur le dos du citoyen lambda. Alors, est-ce que vous pouvez revenir dessus l'état des lieux au niveau des pays africains?
Quand on regarde le niveau d'endettement de l'Afrique, c'est un niveau d'endettement qui est très élevé. Au niveau du service de la dette, chaque pays a une ligne budgétaire dans son budget de dépenses pour rembourser une bonne partie de la dette. En fait, ce n'est pas le chiffre qui fait plus mal, c'est ce à quoi cet argent a servi qui fait le plus mal. Par moment, on rembourse la même dette deux fois. Parce qu'on ne l'a pas investi, on est obligé d'aller s'endetter encore, ou bien on l'a mal investi. Et aujourd'hui, vous voyez, les pays de l'Israël sont confrontés aux questions terroristes. Une bonne partie des ressources internes sont consacrées à ces priorités de l'heure, c'est-à-dire faire la guerre au terrorisme, faire face aux questions humanitaires, faire face à la réinstallation des populations et de l'administration. Il y a de nouveaux défis qui se posent. Et on a eu aussi Covid, qui a mis à genoux quand même certaines économies et qui a encouragé les pays à aller vers un certain type d'endettement. Donc ici, ce que le journaliste doit regarder, c'est à quoi a servi cet argent? Qui a donné quoi? Qui allait négocier? Est-ce que cet argent a créé de la valeur ajoutée sur ce pays? Si on prend une dette et pas on part construire une route dans une localité qui n'en a pas besoin, alors qu'ailleurs, on a besoin d'une route pour évacuer par exemple des produits agricoles, le cacao, le café, vous voyez qu'il y a un problème qui se pose. Quand on prend une dette et puis on pense construire un stade où il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de compétition, ça pose un problème. Quand on prend une dette et puis on part construire une université où il n'y a aucun étudiant et l'infrastructure est habitée par les herbes et puis les animaux, il y a un problème. Donc il faut que cette dette-là aussi soit équitablement répartie en fonction des coûts sociaux et en fonction des secteurs économiques pour vraiment amorcer un développement harmonisé et durable pour tous les pays. Donc ici, c'est à quoi sert la dette qui doit être la préoccupation des journalistes.
Merci beaucoup, Élie Kabore.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction avec Élie Kabore, expert en financement de la dette, sur la question du rôle des journalistes dans la promotion de la transparence dans le financement des dettes en Afrique. Il était interrogé par Jean-Mylène Bitti. Et c'est ici que prend fin cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, appelle le gouvernement ivoirien au dialogue politique pour résoudre la question de l'inscription de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire a célébré hier la Journée internationale des forêts avec un appel à l'innovation pour préserver les écosystèmes. Et à l'international, présidentielle au Sénégal, le candidat Habib Sy se retire au profit de Bassirou Diomaye Faye. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve à 8h pour une nouvelle édition.
Radio de la Paix, mieux comprendre les enjeux.
Day to cry, from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We fall right in this generation triumphantly. Cause all I ever had redemption songs, redemption songs.
Vous êtes plutôt décontracté chic ou femme fatale?
La fatale. Moi, être bien habillée, séminée.
Choisissez bien votre tenue, car dans les règles du shopping, la mode peut faire des victimes.
C'est pas possible. Oh, quelle horreur.
Y'a pas de sel, y'a pas de poivre.
Next.
Dans ce vestiaire, c'est la guerre.
Ça va chauffer. C'est moi la reine du shopping.
Inédit, les règles du shopping. Dès le lundi 25 mars à 18h, exclusivement sur Canal+Pop.